Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Jérôme Chapuis jusqu'à 9h15.
Elisabeth Martichoux, votre invitée ce matin, est le ministre de la Transition écologique.
Et merci beaucoup d'être ce matin dans le studio d'RTL. Bonjour Nicolas Hulot.
Bonjour.
Alors c'était une surprise au G20. Emmanuel Macron a annoncé un sommet climatique en France le 12 décembre. C'est sa décision, c'est votre idée ?
C'est une idée qui a été évoquée au Conseil des ministres.
Quand ? Le mercredi dernier ?
Je me souviens bien. L'idée, c'est de réunir sur ces sujets-là les pays progressistes, de relancer la diplomatie climatique, de renforcer le groupe de pays amis sur le prix du carbone, de supporter l'initiative de Laurent Fabius pour adapter le droit international aux enjeux du long terme. Donc voilà, il y a besoin, notamment au moment où les Fidji vont organiser la nouvelle COP23, ces pays insulaires, de leur montrer notre soutien indéfectible, parce que pendant que certains hésitent sur ces sujets-là, d'autres ont déjà des difficultés sur leur propre avenir d'une autre dimension.
Alors, vous êtes peut-être trop modeste pour le dire, mais on a bien compris que c'était quand même votre idée. Est-ce que les États-Unis seront présents ?
Eh bien, on va le voir. je pense que l'invitation... vous savez, le format est en train de se décider, puisque cette décision, elle est toute nouvelle. Donc, je pense qu'on va lancer un certain nombre d'invitations.
Vous allez les inviter, vous verrez s'ils viendraient. Non, je vous demande ça, parce qu'évidemment, Donald Trump a fait sensation, dans le mauvais sens du terme, en se retirant et en faisant un bras d'honneur à la COP21. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il espérait le faire changer d'avis. Alors, sauf le respect qu'on lui doit, il se prend pour Superman, ou effectivement, l'hypothèse est sur la table d'une volte-face du président américain.
Mais vous savez, les choses ne sont jamais définitives. Il ne faut pas sous-estimer le mouvement de fond aux États-Unis, y compris chez des acteurs financiers qui parfois sont proches de Donald Trump, qui considèrent que c'est une stupidité de s'entêter sur une transition qui est en marche et sur un nouveau monde qui est en train de pousser et dont d'autres vont économiquement profiter. Moi, je fais confiance à l'habileté d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'on dit, mais pourquoi l'a-t-il invité au 14 juillet ? La logique aurait voulu...
Ça ne vous a pas chatouillé, vous, après qu'il a envoyé paître...
Dans un premier temps, oui, mais je me dis que ma réaction est peut-être purement primaire, c'est-à-dire se dire effectivement, essayons plutôt de tendre la main et de continuer le dialogue avec ceux avec lesquels on a quelques divergences. Donc pour finir, c'est peut-être beaucoup plus habile qu'une réaction réflexe.
Oui, finalement, c'est plus... c'est bienvenu, dites-vous.
Puis encore une fois, si on ne parle qu'avec ceux avec lesquels on est d'accord, on ne va pas faire avancer les choses. Je pense qu'à force, il ne faut pas désespérer, peut-être qu'il va comprendre que l'enjeu climatique conditionne tout ce qui a de l'importance au XXIe siècle.
Donc vous irez aux Champs-Élysées, vous lui serrez la main, malgré tout.
On va déjà y aller, après on ne demandait pas trop non plus.
Bon. Avec ce sommet en tout cas de Paris bis, en décembre, la France prend le leadership de la lutte contre le réchauffement en Europe, c'est ce que vous vouliez ?
Ouais, enfin, le prendre leadership, il y a des pays qui sont avec nous. Hein. L'Allemagne est très en pointe, les pays scandinaves sont très en pointe. L'Europe n'a pas, pour l'instant, une voix, de mon point de vue, suffisamment forte et suffisamment ferme. Mais vous savez, il en est du climat comme de l'écologie en général. Tout le monde est pour, mais tout le monde n'est pas forcément pour ce que ça implique. Et c'est bien ce petit gap qu'il va falloir résoudre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tricher. Quand on dit neutralité carbone en 2050, c'est un modèle énergétique qu'il va falloir profondément changer. C'est un modèle marchand qu'il va falloir changer. C'est un modèle économique qu'il va falloir changer. Et moi, mon job, c'est de dire la vérité. Mais ce changement profond, il peut se faire à partir du moment où il se fait progressivement, mais d'une manière irréversible, avec des règles intangibles.
On va y venir. Il faut une volonté politique, évidemment. Le candidat Macron n'était pas franchement très écolo. La lutte contre le réchauffement, ce n'était pas l'alpha et l'oméga de son discours. Il a progressé. Vous l'avez convaincu ?
Convaincu lui-même, à l'aune de, je dirais, d'informations, d'arguments, d'interpellations que les uns et les autres lui avons fait valoir pendant la campagne, publiquement et parfois dans des discussions privées. Et j'observe que sa mutation dans ce domaine-là, ou sa conversion, elle va quand même très vite. C'est pas moi qui lui ai suggéré de réagir si vivement à l'attitude de Donald Trump et de se positionner en pleine nuit. Donc ça prouve que je pense que petit à petit, Emmanuel Macron a compris que cet enjeu, c'était un enjeu...
C'était pas de la com, c'était pas
non,
que la
non, com. Non, on ne peut plus faire de la com, parce que vous êtes pris en défaut dans la seconde. Et vous savez, le plan climat que j'ai annoncé, ce n'est pas un plan homéopathique, c'est quand même un traitement lourd.
Et alors, vous avez frappé fort, en effet, en le présentant, jeudi dernier, avec en particulier cette interdiction de commercialisation de la voiture avec des carburants essence et diesel en 2040. Pourquoi 2040 ?
Oh. Certains,
certains ont dit, après avoir dit c'est formidable, c'est spectaculaire, on ne l'avait jamais entendu, après on a dit ah ben non, l'Allemagne c'est 2030,
oui,
la Norvège c'est 2025.
Et l'Inde s'est mis 2030, ouais. C'est bien de se fixer des horizons, et vous verrez qu'une fois que ces horizons sont fixés, les choses peuvent aller beaucoup plus vite à partir du moment où on sait qu'il n'y aura pas dérogation et qu'on ne revient pas en arrière. Donc ça revient à ce que je viens de vous dire, progressivité, mais irréversibilité. Regardez nos industriels automobiles, moi j'étais très étonné de voir leur réaction. Ça a été de dire chiche. Regardez Volvo qui vient d'annoncer qu'à partir de 2019...
Au matin même de votre annonce.
Oui, coïncidence absolument magnifique. Donc 2040, ça laisse un peu de temps, mais vous verrez qu'une fois, encore une fois, que tous les paramètres s'alignent, eh bien que probablement cette échéance sera globalement ou partiellement réalisée avant. Vous savez, vous aurez un mix dans le transport. Vous aurez des véhicules électriques. Un temps, vous aurez des véhicules hybrides. Mais on a aussi totalement sous-estimé la part de l'hydrogène dans la mobilité douce pour les automobiles, mais également pour les camions, pour les navires et probablement à terme également pour le transport aérien. Il y a une révolution, honnêtement, ouais. Je ne veux pas forcer le trait, qui est en marche. Il faut maintenant l'accélérer.
Justement, pour aller au-delà du discours, au-delà de l'incantation, ce qui a déjà été fait avant, il faut des mesures concrètes qui rendent ça irréversible. Et les Français qui entendent plus de voitures essence diesel en 2040, comment on va faire ? Vous annoncez une prime de transition, notamment pour les ménages les plus modestes, pour remplacer un diesel d'avant 1997 ou essence d'avant 2001, pour regarder ça dans les textes, par une voiture plus propre, neuve ou d'occasion. Alors d'abord, soyons clairs, il y a déjà une prime qui va jusqu'à 10 000 euros. Ça va se substituer ou ça va s'ajouter ? Une prime pour acheter une voiture électrique aujourd'hui ?
D'abord, ce n'est pas 10 000 euros pour l'instant.
C'est 6 000 et 4 000.
Voilà. Bon, mais ce qui est important, c'est qu'on va donner aussi la possibilité aux gens de pouvoir acheter un véhicule également d'occasion.
Oui.
Voilà. Parce que tout le monde n'aura pas, dans l'immédiat, la possibilité de s'acheter un véhicule neuf. Donc on élargit...
Sur d'occasion propre, plus propre.
Plus propre, plus propre plus, pour plus... faire en sorte qu'il rentre dans ce qu'on appelle les pastilles critères. C'est-à-dire que, notamment, il ne soit pas exclu de l'entrée dans les centres-villes dont ils sont exclus maintenant, définitivement, ou parfois dans les périodes de circulation alternée. Simplement, ce que je veux dire...
Donc les plus propres des voitures qui circulent à essence et même...
Oui, mais tout ça, encore une fois, pour faire en sorte...
L'occasion.
Vous savez, la durée de vie d'une voiture, les gens gardent en moyenne leur voiture maximum 15 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans 15 ans, eh bien, le parc soit totalement rénové. Et comprenez bien derrière, c'est que ce n'est pas simplement un enjeu... comment dire, c'est un enjeu de santé publique. Moi, ce qui doit primer dans nos décisions, parce que ça nous reviendra en pleine figure, parce que maintenant, on sait les relations de cause et effet entre la pollution de l'air et un certain nombre de pathologies. Donc, le critère qui prime sur toute décision, c'est le critère de santé. Une fois qu'on a pris des décisions, il faut identifier ceux qu'on a mis dans une forme d'impasse et regarder comment on peut socialement...
Ceux qui peuvent pas changer de voiture,
voilà.
Parce que c'est...
Et donc,
trop cher,
on va
à
mettre
cher,
en place un nombre
exemple.
De dispositifs, ouais. Puis au fur et à mesure, on va corriger quand on va s'apercevoir, effectivement, que parfois, on en a oublié qu'ils ne bénéficient pas de ces dispositifs. Donc, cette dimension solidaire que j'ai rajoutée dans l'intitulé de mon ministère, j'espère que j'en serai à la hauteur.
Regarde, Jérôme Chapuis, qui, tout à l'heure, effectivement, l'avait pas... mais pour être encore très concret, par exemple, cette prime, elle sera différente dans son montant, selon qu'on rachète une voiture neuve ou d'occasion, par exemple.
Non, elle sera la
non,
même.
Sera la
elle
même.
Sera la même. Donc, ça permet.
Qu'on achète une voiture neuve électrique ou une voiture d'occasion essence propre, ça sera la même.
Ce qui est important, encore une fois, c'est que petit à petit,
on change.
La flotte devienne de plus en plus propre.
À partir de quand, cette prime ?
On est en train de regarder ça. Vous imaginez bien que dans le prochain projet de loi de finances, tout sera explicité.
Donc, on peut s'engager sur l'année 2018. Elle verra le jour après que vous ayez les arbitrages budgétaires.
On ne va pas attendre non plus en 7 ans. Donc, ça serait bien que 2018 puisse commencer à mettre en place ces dispositifs.
Alors, petite question pratique. Quand on essaye de visualiser ce changement de paradigme, comme on dit maintenant, la question des bornes de recharge, c'est c'est facile d'imaginer, par exemple, en Californie, qu'on trouve des bandes de charges partout parce qu'il y a plein de maisons individuelles. Comment on fait dans les zones très urbanisées, Paris, Lyon centre, ou même au pied d'une barre d'immeubles à Montreuil où il y a 2000 logements? Comment on fait? On met des prises électriques partout? Comment ça se passe?
Mais à partir du moment, comprenez bien, à partir du moment où le marché maintenant est bien identifié, où on sait que la voiture électrique à terme va devenir la norme, tout va s'organiser. Alors peut-être pas du jour au lendemain, mais vous voyez déjà, moi j'habite dans une commune rurale. Ma commune rurale, à l'entrée, il y a 2000 habitants, elle a une borne électrique.
Quand vous d'ailleurs, c'est facile dans les zones rurales, mais dans, encore une fois, dans les zones très urbanisées, on se demande comment ça va se passer.
Ben, ça va se mettre en place.
Vous avez confiance. Oui.
Mais vous savez, le propre d'une révolution, c'est qu'il y a une période de transition. C'est la période la plus délicate, la période de transition. Donc, et c'est pour ça que mon objectif dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine de la mobilité douce, dans le domaine de l'alimentation, c'est d'engager une transition, mais encore une fois, en profondeur, et de faire en sorte que le peu d'argent qu'on a, on le met prioritairement sur ces sujets-là, sur ces investissements-là et sur ces équipements-là pour ne mettre personne dans une impasse.
On a bien compris. Un tout petit mot sur les antinucléaires qui sont assez frustrés après l'annonce du plan climat. Vous avez annoncé, confirmé la réduction de 50% d'électricité produite par le nucléaire en 2025. Combien de réacteurs seront fermés dans 5 ans pour tenir l'objectif? Est-ce que vous pouvez être clair? Parce que ce n'est pas clair.
C'est pas clair parce que d'abord, on n'a pas tout développé dans le plan climat. À partir du moment où déjà on a confirmé qu'effectivement la part du nucléaire sera dans la production d'électricité de 50%, chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs et pas un seul réacteur qui d'ailleurs, au passage, n'a pas encore été fermé. Donc laissez-moi planifier les choses. Oh, ça sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs. Il faut qu'on regarde.
Oui, ils disent une quinzaine. Il faut une quinzaine.
Mais ça sera cela. Mais je vais le faire, moi, d'une manière non pas symbolique et pas d'une manière dogmatique.
C'est
que derrière ces réacteurs, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Chaque réacteur a une situation économique, sociale ou même de sécurité très différente. Et moi, je vais planifier cette transition. Et si nous voulons atteindre cet objectif, mécaniquement, à mesure que nous allons baisser notre consommation, diversifier notre production, on va fermer un certain nombre de réacteurs.
Et pourquoi pas, ce sera 17. Vous vous sentez bien dans ce gouvernement?
Honnêtement, oui. D'abord parce qu'il y a des ministres de la société civile, on partage nos désarrois, nos angoisses et nos inquiétudes. Et puis, il y a des poids lourds de la politique qui nous réconfortent un peu sur la rudesse de la fonction.
Merci beaucoup. Merci. Nicolas Hulot d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Merci à tous les deux. On retient donc le passage à l'interdiction de commercialiser des véhicules essence et diesel. Progressif mais irréversible. La subvention à l'achat de véhicules moins polluants, y compris pour les voitures d'occasion, ça fait partie des messages que nous a délivré ce matin Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire. On l'a bien compris, ce matin, il était votre invité, Elisabeth Martichoux. Entretien à réécouter sur rtl.fr.